Alors, je m'excuse du retard, j'ai eu des problèmes techniques. Oui, alors, je vais écouter vos représentations. So, I will hear your representation. I will start with the PG, and then I will hear you, Mr. Perez, even if you're the one presenting the motion, because the demand, because I think it's important to hear what the professor said, the prosecutor.
Okay.
Alors, madame la juge, vous avez mon cahier de source parti devant vous?
Oui.
OK. Est-ce que, juste peut-être avant de débuter, voulez-vous qu'on reprenne tous les principes ou on se concentre sur ce qui a été dit aujourd'hui, comme on l'a déjà plaidé?
Bien, moi, la dernière fois, maître, vous m'avez dit, la première étape est remplie. Alors, je pense que la même conclusion s'impose. Alors maintenant, vous devez me démontrer en quoi cette décision-là est appropriée, les décisions qui ont été prises par l'établissement.
Parfait. Donc, effectivement, bon, les principes applicables, en fait, sont prévus dans l'arrêt qui est là. Comme vous le dites, je crois qu'il va de soi qu'on considère que la première étape est remplie. Et donc, c'est à notre tour de vous démontrer la légalité de cette privation de liberté. Les deux grands volets qui ont été invoqués, ce sont les accès à l'air commune et donc le confinement en cellule et les accès à la cour extérieure. Je considère que ce sont les deux seuls éléments dont on a discuté qui doivent en fait être traités aujourd'hui.
Oui, et c'est les seuls qui touchent la Habeas Corpus.
Exact.
Oui.
Pour qu'une. Je vous amène en fait dans la rue qui est là. Paragraphe 73, pour qu'on considère qu'une décision, en fait, une privation de liberté est légale, elle doit faire partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard du fait et du droit. Dans notre cas, commençons avec l'air commune. On l'a dit un petit peu plus tôt, là, il y a quelques. Si on se concentre, évidemment, les conditions actuelles de détention, la version plus doit s'ancrer dans le présent. Si on prend les dernières dates, il y a quelques jours, donc on a parlé plutôt du 20 août, 2 septembre, 3 septembre, 4 septembre, où, et je considère que le 10 septembre, on en a parlé plus tôt, là, mais considérant que c'est un dimanche, je l'exclus en fait de mes représentations, là, on parle de 4 jours où la situation a été critique au niveau de l'air commune. Par contre, contrairement à l'accès à la cour extérieure, là, on a un article de règlement, en fait, qui prévoit une heure de cour extérieure par jour, ce qu'on n'a pas pour l'air commune. On a parlé de gala, de 2 heures, donc on n'a pas de... En fait, la situation est moins critique, si je me permets de le dire comme ça, contrairement à la cour extérieure. Mais on a quand même des jours où il y a eu des aménagements qui ont été faits. Les personnes incarcérées ont été davantage votées dans leur cellule pour un manque de personnel. Du côté de la cour extérieure, on a deux catégories de motifs pour lesquels la cour a été fermée ou annulée dans certains cas où on a fait des réaménagements. Par exemple, on n'a pas eu le temps complet qui était prévu par le règlement.
Maître Rigny, je veux juste vous interrompre. Quand vous me parlez des informations, pouvez-vous me référer aux pièces? Parce que je pense que ce que vous m'avez dit tout à l'heure, c'était PGQ. Ça, c'est le document qui concerne M. Perez lui-même, PGQ 2, c'est ça? Quand vous m'avez parlé des cellules et tout?
Oui, on a regardé ensemble effectivement PGQ 2, qui est le PGQ 2. On a aussi la preuve de monsieur.
Vous avez lorsque vous me parlez de la cour extérieure, c'est plus PGQ 3B.
PGQ 3B, PGQ 2 aussi.
Mais PGQ 2, c'est comme une mise à jour de PGQ 3B.
Oui. Mais 3B, c'est mon courriel qui vous résume PGQ 2. Donc moi, je me référerais davantage à PGQ 2.
D'accord. Parce que là, on a que la cour extérieure tout ensemble, alors que PGQ2 était plus un énuméré des problèmes. Ou c'est vraiment juste la cour extérieure?
Dans les courriels, moi, je vous fais un petit résumé. Là. Ouais. Donc, ça fait mieux prendre PGQ2.
OK, PGQ2, c'est juste la cour extérieure.
Avec quelques ajouts. Donc, on parle des fois du médical, on parle des fois de liberté en alternance dans la commune. Ça dépend des personnes, malheureusement, qui ont inscrit les choses.
Okay.
Moi, dans mes courriels, je vais vous résumer en fait la situation pour la cour extérieure. Puis dans PJQ 3C, j'ai ajouté l'aire commune.
OK, PJ, 3C, ça, c'est la cour commune.
Ça, c'est dans l'aire commune, exact. Mais tout ce que moi, j'ai dit dans PJQ 3A et B, ça se retrouve dans PJQ 2.
D'accord.
Alors, juste pour que votre manifeste
OK. Alors, on va juste s'assurer que M. Perez suit. Alors, M. Perez, ce que the Crown is telling me that all the information are on PJQ 2, the last document you received. That's the document alone.
It's that one. I can see 1, 2, 3, 4, 5, 6. There's about 8. No, it's 8, 9, 4. It's completely no course. There's no theory course at all in this one. Is that right?
Mr. Perez, look at me. Look at me. The PJQ 2 that the Crown is referring to is the one who is in handwriting. That's concerning you yourself and not the wing, not the detention center. It's you and the days you were able to go outside or not. That's the PJQ 2 that Maître Rénie is referring to. So that's
okay.
In handwriting, okay? And she says that for the common area, it's PJQ 3C. And 3C is the one who has the longest list of dates. And it's written, pas d'entrave, pas d'entrave, pas d'entrave. That's PJQ 3C.
That's true.
Okay?
Okay, got it.
Put the number on the sheet, that way it will be easier for you to follow.
3C, that's the 3C one.
The 3C1 is the one with the long list that goes to the bottom of the page. And the 3P,
okay, got it.
PGQ2 is the one in handwriting with your name on top.
Two pages.
Yes, two pages. Yes.
That is two.
Recto verso usually, but it's two pages, yes. Alors, Maître Rény, je vous écoute.
Donc, pour le... Là, pour la commune, c'est quelques dates. Je reviendrai parce que le seul motif qui est invoqué, c'est le manque de personnel. Donc ça, je reviendrai quand on va... Je vais traiter du manque de personnel ensuite, là, pour la raisonnabilité. Mais pour ce qui est de la cour extérieure, les deux, ce que je disais, c'est qu'on a... Je vais catégoriser ça en deux volets. Le premier volet, c'est le manque de personnel. Et l'autre volet, c'est les enjeux, en fait, les événements qui surviennent dans l'établissement, qui nécessitent des aménagements. Pour des raisons sécuritaires. Donc là-dedans, je vais rentrer les fouilles, je vais rentrer la livraison de drones, les évasions, des choses comme ça. Donc, par souci d'efficacité, là, c'est comme ça que je vais les séparer pour mes représentations. Parce que je trouve qu'elles sont... Le manque de personnel va se recouper, évidemment, là, mais c'est quand même deux choses bien différentes selon mon... En fait, ce que je me souviens, c'est que c'est très différent. Pour ce qui est du 29 et du 30 août, M. Ballon vous l'expliquer, on parle de fouilles. Donc, pour ces dates-là, comme il l'expliquait, là, on a trouvé un couteau de céramique. Donc, il faut, comment ça fonctionne dans l'établissement, c'est qu'on doit réorganiser tout le personnel qui est là. Évidemment, la mission d'un établissement de détention, c'est d'assurer la sécurité de tous, y compris le personnel et les personnes incarcérées. Et donc, quand il y a des événements comme ça qui surviennent, il faut quand même assurer les services essentiels. Donc, je vais m'exprimer en disant la gestion des priorités, si on veut, parce que, bon, là, on doit réorganiser, on doit jongler avec de nouveaux enjeux, et il va évidemment avoir des aménagements qui vont être faits pour s'assurer que, bon, même s'il y a une fouille, par exemple, ou qu'il y a un drone ou une tentative d'évasion, il faut quand même assurer les comparutions. Il faut quand même distribuer les repas, il faut quand même permettre aux gens d'accéder à la preuve, de préparer leur dossier, escorter les gens d'un endroit à l'autre, les déplacer. S'il y a des déplacements à la santé, s'il y a des urgences à faire, tout ça doit être fait aussi. Donc, évidemment, on va couper, puis je vous entends déjà me préciser, on a un article de règlement qui prévoit une heure de cours extérieure. Et donc, on priorise actuellement d'autres services plutôt que de donner ça. Par contre, dans des circonstances exceptionnelles comme ça, la priorité va être, bon, ce que je viens d'énumérer, mais aussi de les sortir dans la commune. Et dans les journées où, par exemple, si on prend juste le 29 et le 30 août, les personnes incarcérées, bien qu'elles n'ont pas eu accès à leur cours, ont eu 8h30 dans leur commune. Donc, quand on est dans des situations comme ça, là, où on est en urgence, que tout est réorganisé, la priorité va être tout simplement pas les laisser en confinement toute la journée, évidemment. En fait, je vous dis, la mission de l'établissement, c'est d'assurer la sécurité de tous. Évidemment, on ne peut pas mettre en péril la sécurité des agents. On ne peut pas, parce qu'on a une heure à faire de cours extérieur. S'il manque de personnel, parce que le personnel, pas juste parce qu'on parle du taux d'absence, mais il manque de personnel pour assurer tous les services essentiels en ajoutant les fouilles, si on veut, il faut quand même garder en tête que la sécurité est importante. On ne va pas laisser tout le monde dans la commune s'il y a un seul agent qui est dans le secteur, par exemple. Si on vous a parlé de 5 agents par secteur habituellement, si on a 4 qui sont allés ailleurs parce qu'il y a eu une lesbienne en tout cas, mais une livraison de drone, une émeute, peu importe ce qui arrive, un suicide, peu importe, il faut assurer la sécurité de tous quand même. Sur ce point-là, je vous amène à l'onglet 3 de mon cahier de source. Au paragraphe 37, dans ce dossier-là, la décision Eudel, on parlait, comme dans notre cas ici, là, où on parle du manque des personnels dans cette décision-là, de l'accès à la cour extérieure et du régime de vie. Au paragraphe 37, le juge Poulin vient nous dire, qui compare la situation avec la décision Lantier, mais plus bas, vous allez voir au petit paragraphe, là, paragraphe 45. Le nombre d'agents disponibles est intrinsèquement, relié à des considérations de sécurité. C'est une chose d'ouvrir les portes des cellules à l'heure prévue, mais encore faut-il des agents pour assurer la sécurité des détenus et des agents correctionnels au sein de l'établissement. Ce principe a été reconnu par la Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire Ogunayan. Ça, vous l'avez aussi dans mon cahier de source, je crois qu'il est à l'onglet 5. C'est un peu ce que je viens de vous dire. Si on veut, je pense que vous l'avez vu aussi dans la volonté de comment s'exprime M. Gagnon, là, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on fait ça. Donc, c'est sûr qu'on ne laissera pas un agent dans un secteur pour ouvrir à tout le monde. Il peut se passer n'importe quoi, on est dans un établissement de détention. Même chose pour la cour extérieure. Donc, en plus des événements qui surviennent, cet enjeu-là, l'enjeu de la sécurité, doit être considéré. Et dans ce contexte-là, c'est évidemment justifié et raisonnable de faire des aménagements. Et peut-être qu'ils sont pas... En fait, monsieur a définitivement soulevé un doute sur cette légalité-là, mais je vous soumets que juste pour l'argument de la sécurité, c'est comme ça que ça fonctionne un établissement de détention. Et ça serait l'anarchie si on ne le faisait pas comme ça, parce que s'il y a 30 gars et un agent dans un secteur, par exemple, il peut arriver n'importe quoi, et je n'ai même pas besoin d'aller plus loin, je pense que c'est ça va de soi, là, pour cette question-là de sécurité. Et de gestion des priorités aussi. Donc, ces aménagements-là sont faits, que ce soit pour une fouille, que ce soit pour un drone, pour une évasion, peu importe. C'est de la discrétion du directeur d'établissement de choisir un peu comment on va organiser tout ça pour minimiser les impacts sur les personnes incarcérées. La question du manque de personnel est... Ça, c'est pour les 29-30, pour la fouille. Moi, je trouve, c'est la position de mon client aussi, la situation la plus critique, c'est le 2 au 4 septembre, parce qu'on n'avait pas d'événement. Donc, du 2 au 4 septembre, et je vous le dis en toute, et c'est même mon opinion personnelle, c'est critique, c'est loin d'être idéal. Il y a un problème important à ce niveau-là. Et ça donne que c'est le week-end d'appel du travail, du 2 au 4 septembre. Donc, on vous a parlé du manque de personnel. Monsieur Gagnon vous a également parlé de toutes les mesures. Vous l'avez questionné là-dessus, là, toutes les mesures qui ont été mises en place un petit peu plus haut, là, donc littéralement par les autorités correctionnelles, pour pallier à ce manque de personnel-là. Dans les décisions URDL, qui est à l'onglet 4, la décision Lantier à l'onglet... la décision URDL à l'onglet 3 et la décision Lantier à l'onglet 4, on en parle aussi. Évidemment, bon, on le voit dans le milieu de l'éducation, on le voit dans le milieu de la santé, il y a une pénurie de main-d'œuvre, les systèmes correctionnels n'en font pas exception. Il y a plusieurs mesures qui sont prises, on parle du gel, on parle du temps supplémentaire obligatoire. Les dernières années avec la COVID ont été difficiles même au sein des services correctionnels, et donc on a un taux d'absentéisme plus élevé, on a des postes qui doivent être comblés. Il y a plusieurs absences pour des raisons de santé, peu importe, évidemment, comme des infirmières, si on fait du temps supplémentaire obligatoire pendant des mois, ça se peut qu'il y ait quelques arrêts de travail en cours. Donc, on est exactement dans la même situation que dans plusieurs domaines actuellement. Je vous ai dit plus tôt, là, actuellement, on a 500... à peu près 531 postes comblés, 64 absences et à peu près 1250-1300 personnes incarcérées actuellement. Je vous amène à la décision URDOV à l'onglet 3, au paragraphe 26. Puisque ça fait état des mesures en fait, qui ont été prises suite à la COVID là, à partir de 2020. Je vais faire une petite lecture. Au pallier au manque de personnel et aux conséquences de la crise sanitaire, l'établissement de détention a occasionnellement recours à la fermeture des secteurs, à un plan de contingence au niveau du personnel, aux gestes de vacances et aux temps supplémentaires obligatoires. De plus, les agents habituellement affectés à d'autres établissements ou au palais de justice de Montréal ont récemment prêté assistance à RDP pour un total de plus de 8000 heures. Pour améliorer la situation relative au manque de personnel découlant de la situation pandémique actuelle, le MSP a mis en place certaines mesures additionnelles. Il faut que vous sachiez que pendant la COVID, il y a pu, en fait, l'École nationale de police a fermé ses cohortes, si on veut. Donc, il y avait plus de nouveaux agents, plus de nouvelles cohortes. Donc, pendant un certain temps, il n'y avait plus d'embauche non plus. Donc, au paragraphe 27 de la décision, on vient résumer. Je vois que la petite note de bas de page 7 fait une directive, mais on a augmenté les cohortes à l'École nationale de police du Québec. Le processus d'examen en ligne a été instauré. Une entente permettant l'embauche le plus rapide d'agents occasionnels et intervenants de Sainte-Feuille et le MSP. Les entrevues des candidats ont été centralisées. On a sollicité d'autres agents. On a fait des transferts également. Tout ça, c'est encore en vigueur. Et M. Gagnon, vous avez aussi des permanences assurées, on monte les salaires, il y a des coûts qui arrivent plus vite, on fait des embauches de masse, il y a des formations plus rapides aussi. Tout ça est pris au sérieux par les services correctionnels. On ne peut pas faire de miracle considérant qu'il y a des rimes de partout, mais il y a des mesures qui sont mises en place pour contrer le manque de personnel, pour minimiser les impacts du manque de personnel sur les conditions de détention dans tous les établissements. Et donc, au niveau, si on veut, du plancher, les aménagements sont faits par les directeurs, notamment, bon, on parlait de vacances, de temps supplémentaire obligatoire, on ferme les secteurs, on fait une ouverture par alternance, on essaie d'aménager tout ça pour que ça soit correct, mais aussi au niveau des services personnels plus haut, macro, si on veut, il y a aussi des mesures qui sont prises. Donc, dans ces circonstances-là, les établissements et les services personnels font leur possible pour que ça change et pour minimiser les impacts. Ça mène maintenant à la décision qui se trouve à l'onglet 4, Lantier. Où on est arrivé à la même conclusion que dans URDL de en fait, de rejeter la réaction plus pour ces motifs-là parce que les mesures étaient mises en place. On faisait tout le possible pour que les conditions de détention soient plus faciles pour les personnes incarcérées, mais que tout se passe en s'assurant de la sécurité de tous. Je vous amène au paragraphe 45 et suivant. Là, on parle un petit peu de la COVID. Je ne reprendrai pas le paragraphe 45 parce que je l'ai lu un petit peu plus tôt, là, qu'on devait de toute façon assurer la sécurité des détenus et donc pouvoir avoir suffisamment d'argent pour le faire. Paragraphe 49. Les mesures prises par l'établissement de détention ne sont pas déraisonnables. Ils sont acceptables compte tenu de la situation. La situation, c'était le manque de personnel. Ce qu'on a vu un petit peu plus tôt, là, qui était l'embauche de ressources additionnelles. L'école de formation qui changeait un peu sa façon de faire pour avoir plus d'embauche. Le gel des vacances, le temps supplémentaire obligatoire. Au paragraphe 50, on dit « Il ne fait pas doute pour un tribunal que des attaques à la liberté individuelle pour des motifs de sécurité » ou en raison de restrictions imposées dans le cadre de la prévention et de la protection contre la COVID sont légales. Moi, ce que je vous soumets, c'est qu'on est dans la première catégorie. Actuellement, on n'a pas d'inclusion, évidemment, mais c'est pour des motifs de sécurité. Que ce soit les membres de personnel inclus.
Sauf que,
pardon?
Maître Rénie, où ça ne colle pas, c'est que là, on est en pleine COVID dans ces jugements-là. Et on dit, bon, à cause des mesures de santé publique et de COVID, c'est acceptable. Et des protections contre la COVID, on sait à quel point ça a été fou et comment ça a été difficile à gérer. Mais maintenant, il n'y a pas ça, là. Alors là, il reste le manque de personnel. Et il reste l'établissement des priorités. Et il reste l'article 10. Mm-hmm. Et le fait qu'on voit que, bon, les gens ne sortent pas, pourquoi? Manque de personnel. C'est pas parce qu'il y a la COVID, c'est pas parce qu'on a essayé d'aller chercher des gens, c'est pas parce qu'on a sollicité de l'overtime et que les gens tombent malades, pas peu pas. Parce que, contrairement à ce que vous m'avez dit, l'onglet 3, Hurdle, au paragraphe 27, il y a plein d'éléments que j'ai pas ici. Dans le paragraphe 27 de Hurdle, il y a plein de facteurs que moi, je suis allée demander à M. Gagnon, mais qui ne sont pas, qui n'ont pas été donnés. Alors, au paragraphe 27 de Hurdle, je comprends qu'on a fait cette preuve-là. Alors, là...
Oui, mais en fait, on a fait cette preuve-là...
En partie, suite à mes questions, on m'a dit, M. Gagnon m'a expliqué qu'ils ont essayé d'ouvrir un autre centre à Laval pour les cours pour ne pas éloigner les gens du centre-ville, il m'a dit aussi qu'il allait donner des permanences plus rapidement.
La formation,
mais tout ce qui concerne les solliciter des agents retraités, tout ce qui concerne aller chercher des agents ailleurs, ça n'existe pas dans votre dossier. Il n'y a pas ça. Alors là, on a une section qui nous dit clairement que c'est minimum une heure. Là. Et là, on ne parle pas de 45 minutes, 50 minutes, 58 minutes. C'est pas du tout. Pas une fois par mois, pas deux fois par mois, c'est par semaine. Alors, je comprends que c'est actuel que je dois juger, mais je pense que c'est utile de regarder, est-ce que c'est une tendance ponctuelle? Est-ce qu'on a donné accès à la cour extérieure pendant une grande période, mais là, il est arrivé un incident ponctuel qui fait que malheureusement, on n'a pas pu le fournir, malgré tous les efforts faits. Moi, je ne vois pas ça dans le dossier. Malgré le fait qu'on l'a remis de 14 jours, à la demande de M. Pérez, parce qu'il disait, moi aussi, je vais le noter. Et je pense qu'on a pu voir la corrélation des informations entre les informations de M. Pérez et les informations du centre de détention. Et malheureusement, ce que M. Pérez soumet est là, à part une petite chose là, où lui n'est pas sorti et on avait donné accès. Mais la réalité est que même quand on donne accès, il y a des périodes où ils n'ont pas l'heure. Et ça... J'aurais pu dire, ben écoutez, avec les sécurités, les événements et tout, mais non, il n'y en a pas du tout. Et comme vous dites, ce qui est le plus flagrant, c'est pour les dates en septembre, du 2 au 4, c'est horrible.
Oui.
Alors, c'est parce qu'il y a une disposition qui dit, ça doit être ça. Et M. Pérez, alors qu'on n'était pas aux arguments, a dit une chose fort importante, c'est que ça a un impact sur l'état d'esprit des détenus aussi, là. Je veux dire, c'est lui qui fait la demande. Je ne pense pas qu'on a besoin d'une grande plaidoirie pour conclure que quelqu'un qui est à l'intérieur des murs, qui est souvent mis en cellule, puis ça, comme je suis d'accord avec vous, c'est pas le point majeur parce qu'il sort quand même, puis il y a toutes sortes de raisons, mais on voit qu'on on fait des efforts pour qu'il soit à l'extérieur de leur cellule. Mais même ça, le 10 heures, on l'a pas, mais ça, c'est pas ça le point majeur. Ouais. Moi, je vous dis que c'est la cour extérieure. Il y a un problème majeur avec la cour extérieure. Et ça, c'est pas une fantaisie, là. C'est pas des plats d'accompagnement avec la nourriture, là. C'est pas le genre de menu qu'on a dans notre assiette, là. C'est vraiment majeur. C'est que ces gens-là doivent pouvoir sortir dehors. Ils sont détenus. Alors, quelle est la source du problème? Est-ce que c'est la direction qui ne comprend pas qu'ils doivent prioriser cet aspect-là parce que c'est obligatoire et que leur priorité, ça fait partie des priorités, plus que de consulter sa preuve, plus que d'autres choses, parce que ça concerne aussi la santé mentale en extrapolant des détenus. C'est ça.
Je suis complètement d'accord avec vous. Et le motif qui est soumis, comment il est justifié par les services fonctionnels, c'est des motifs de sécurité, ultimement. Que ce soit pas juste pour les. Je parle pas des enjeux sécuritaires comme tels. Oui, ça, c'est des enjeux, on doit réorganiser. Mais quand on parle d'enjeux pour des motifs de sécurité, c'est si on n'est pas suffisamment personnel, on ne pourra pas sortir, comme je l'ai dit, là, on ne pourra pas sortir tout le monde avec un seul agent.
Ah non, mais je suis d'accord avec vous, maître Rémy, là, on ne mettra pas en péril les agents, ni les détenus, ni les personnes incarcérées. Sauf que qu'est-ce qu'on me dit? C'est qu'on pourrait faire appel à des gens à l'extérieur, mais ces gens-là, rentrer seulement 4 heures, pas sûr qu'ils vont dire oui. Pas genre, on s'est fait dire non, on l'a demandé, on ne le fait pas. Parce que les gens, ben, même moi, je n'irai pas parce que ce n'est pas rentable. Puis, dans le fond, écoutez, ça ne peut pas être une raison, ça. Demandez-leur de venir toute la journée, geler les temps supplémentaires, il faut que quelque chose soit fait de plus radical. Parce que là, on ne le fait pas. Ce qu'on a fait pendant la COVID, d'aller chercher du personnel dans les autres services de détention à Montréal, ailleurs, de faire revenir des retraités, ça, on est passé à autre chose. Et malheureusement, de passer à autre chose, ça fait en sorte que les gens n'ont plus accès à la cour extérieure. Je comprends qu'il y a des efforts de fait, je l'ai pris en note, on essaie de faire une cour avec une protection, mais c'est depuis juin là, qu'on fait ça. On est rendu en septembre. Et c'est pas avant un mois.
Le problème que je vois, parce que je suis... Et c'est pour ça que je pense que je fais ces dossiers-là aussi, c'est que quand on le fait avec M. Perret, si on peut faire une différence, on le fait. Le problème qu'il y a dans le cadre de la vie à ce moment-là, c'est que c'est le même problème depuis que ces dossiers-là arrivent, c'est qu'on a plus ou moins de solutions. Malheureusement, à moins qu'on ait un autobus d'agence des services correctionnels qui vienne avec votre ordonnance, si vous ordonnez aujourd'hui, puis là, je vais le dire en toute transparence, si vous nous ordonnez aujourd'hui de cesser cette privation de liberté résiduelle, probablement que ça ne se fera pas parce qu'on n'a pas de personnel pour le faire. Ça va être la même chose.
Ils ont le personnel, mais ils ne veulent pas. Parce qu'il m'a dit au début, c'est une question de budget, puis c'est rattrapé, M. Gagnon, en disant, je retire ce que j'ai dit, que c'est une question de dépenses et de budget. Il s'est repris. Mais c'est ça, là, parce qu'on ne fait pas les démarches auprès des gens qui sont chez eux. On peut geler, mais je comprends là, qu'il y a une certaine empathie envers les agents, parce que comme n'importe où, on se dit, bien, si on leur donne du temps supplémentaire obligatoire, est-ce que ces gens-là ne vont pas tomber en maladie ou tout simplement nous quitter pour aller à d'autres fonctions? Ça, je comprends, mais on ne peut pas, pour des raisons autres, dire, ben, tu sais, regardez, le week-end du travail, là, les gens ont été en congé. C'est clair comme ça, c'est qu'on a priorisé les congés, puis on n'a pas donné le droit des détenus à avoir une heure. Tout simplement, là, c'est clair comme de l'eau de roche. Alors, on ne peut pas continuer comme ça. Alors, il va falloir qu'il y ait des demandes d'assistance, il va falloir qu'il y ait des demandes. En plus, on me dit que là, on a des cohortes qui devraient arriver de façon plus importante parce qu'on a le nouveau centre à Laval. Alors, on n'est pas dans un, comme on dit en anglais, un dead end, là. On s'entend qu'il y a d'autres solutions. Mais comme vous dites, quelle va être la conclusion? Parce que si ça n'a aucun sens, il faut trouver une solution. Alors, quelle sera, et c'est ça que je vous pose comme question, je ne veux pas couper votre plaidoirie, mais je vous dis, là, la cour extérieure, moi, je ne trouve pas raisonnable les décisions de la direction. Alors, s'il faut que je rende une décision, quelle sera ma conclusion, maître? parce qu'il faut qu'elle soit applicable. Il faut qu'on puisse...
Ben, je suis d'accord avec vous, et c'est pour ça que je vous dis que je ne vois pas comment vous pouvez rendre. Et je vais vous lire un, et je l'avais mis de côté parce que je savais bien que la question viendrait. C'est une décision de la Cour d'appel, probablement que vous en avez entendu parler, c'est la décision Turbide-Labbé.
Le juge Cournoyer qui est allé avec...
Exact.
C'était avec qui déjà? Donc,
exact.
Avec une référence à...
Mais c'est, en fait, le dossier de M. Turbide-Labbé, c'est souvent sur ses contacts significatifs.
Non, je sais, mais je pense que le juge Cournoyer a décidé de rendre une décision malgré que ce n'était pas nécessairement le dossier qui nécessitait ça, parce qu'il trouvait ça important de circonscrire la portée de l'habeas corpus.
Absolument.
Et qu'est-ce qui sous-tend l'habeas corpus. Oui.
Exact. Donc, mais il n'y a pas d'ordonnance comme telle dans cette décision-là. Et au paragraphe 149 et suivant de la décision, en fait, un peu comme on est dans la même situation aujourd'hui, là, le juge Royer voulait rendre une ordonnance pour faciliter les choses pour M. Turbide-Labbé, et il a rendu une ordonnance que les services correctionnels n'ont comme pas pu respecter, et le juge Cournoyer nous a dit au paragraphe 150, un jugement doit être susceptible d'exécution. Le dispositif du jugement doit définir de manière claire, non équivoque, ce qui doit et ce qui ne doit pas être fait. Ce principe est encore plus nécessaire en matière carcérale, car le recours lui-même détermine si la détention est légale ou non, et entraîne la libération du détenu lorsque celle-ci est illégale. L'ordonnance du juge de procéder à une alternative de détention dont les modalités ne sont pas précisées soulève des difficultés réelles d'exécution pour les autorités correctionnelles et rend difficile tout recours éventuel de la plan pour renforcer le respect. C'est le problème principal que je vois actuellement, parce que est-ce qu'on fait de la micro-gestion d'un établissement? Là, je le dis en toute transparence. Est-ce qu'on fait de la micro-gestion d'un établissement, ce que les tribunaux ne peuvent pas faire, et avec respect et égard, vous et moi, nous n'avons pas l'expertise requise pour réorganiser l'aménagement de l'alternance des secteurs et tout ça. Donc, il faut trouver une ordonnance aujourd'hui, parce que je comprends que vous êtes très... et la situation, elle est critique, là. On le reconnaît, les services personnels le reconnaissent, mais ultimement, l'ordonnance que vous pouvez rendre, c'est laquelle? La seule que je vois, c'est cesser ou faire les aménagements requis pour que les privations de liberté résiduelle, on ne prive plus en fait les personnes incarcérées de leur liberté résiduelle. Mais la Cour d'appel vient nous dire que ça doit être susceptible d'exécution et donc ça doit être défini de manière claire et non équivoque.
Bon, ben moi, je pense que peut-être qu'une conclusion serait à l'effet que l'établissement de détention de Montréal doit s'assurer du nombre d'agents nécessaires, que ce soit retraités, que ce soit des gens en temps supplémentaire ou de réaménagement de vacances pour s'assurer que l'article 10 de leur règlement soit appliqué.
Ben, je serais d'accord avec vous sur cette ordonnance-là, sur cette conclusion-là. J'espère, en fait, de tout cœur qu'elle sera respectée d'une façon ou d'une autre. Actuellement, c'est ça mon inquiétude.
Ben, c'est sûr que c'est l'inquiétude de tous, parce que le jugement du juge Cournoyer, on l'a tous lu, puis je veux dire, on a vu la conclusion du juge Royer qui essaie de voir comment il peut régler une situation, mais c'était plus, je pense, dans
un message. Oui. Je le comprends, et je vois, étant dans ces dossiers-là, je suis aussi bien consciente de la situation. Là. Donc, je pense effectivement que ce que vous venez de proposer, ce serait la conclusion ou l'ordonnance la plus appropriée dans les circonstances.
Parce
qu'effectivement, l'article 10, l'article n'est pas respecté.
Non, l'article
10. Il ne l'est pas.
Non. Alors, je comprends pour Monsieur Pérez, il nous dit, écoutez, moi, je suis dans ma cellule beaucoup plus souvent que je devrais, je n'ai pas mon 10 heures, des fois, oui, mais rarement, parce qu'on est souvent en bas de 10 heures. Mais au centre de détention, je pense que le témoignage entendu et ce qu'on a eu comme document indique clairement qu'avec tout ce qui se passe, entre autres, avec les drones, qui est un phénomène nouveau, ça requiert énormément de temps de la part des agents et de la direction. Mais on comprend que c'est un phénomène qui est de 4 à 5 ans. Là. Si ça avait été un phénomène du 6 derniers mois ou de la dernière année, j'avoue peut-être que mon appréciation des faits aurait été différente. Mais là, on parle de 4-5 ans, on parle d'une construction qui dure depuis un certain temps aussi pour sécuriser une cour, mais c'est surtout que j'ai aucune certitude qu'on a fait le maximum pour contrer ce problème-là, parce qu'on le met dans un lot avec les aires communes, avec... c'est comme considéré un peu au même niveau que avoir accès à la salle pour ses documents de travail. Mais c'est pas ça, là. C'est une obligation. Obligation. Alors, c'est comme si on me disait qu'on n'a pas assez d'argent pour leur donner 3 repas par jour. Ben, je m'excuse, il faut qu'ils mangent 3 repas par jour. Et ça, je pense qu'on n'y va pas parce qu'on sait que ça serait tellement clair, là. Mais là, on a un article qui est écrit noir sur blanc, là. Il n'y a pas aucune interprétation possible. Parce que moi, je voulais aussi m'informer auprès du procureur de la Couronne quel était le stade du procès ou du dossier, parce que si c'était uniquement du temps préventif pour d'autres procédures, mais là, on parle que la semaine prochaine, il y a une peine. Et de façon évidente, c'est de l'incarcération. C'est juste de savoir combien de temps. Alors, ça veut dire qu'il faut régler ce problème-là, parce qu'on est toujours dans la question de la détention. Il n'y a pas d'autre possibilité. Alors, je vais écouter ce que M. Perez a à me dire. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Maître Rémy?
Non. Ben, en fait, mes inquiétudes, ben, comme je vous dis, je suis d'accord avec vous. Là. Donc, c'est sûr que puis la position de mon père est la même aussi. C'est vraiment le dispositif du jugement que, même si on réfléchit, j'ai de la difficulté à voir comment il va être bien. Puis je veux pas qu'on se retrouve toujours en outrage, mais en même temps, c'est comme ça, puis si on veut envoyer un message, je comprends très bien que c'est ça la seule façon de faire.
Exactement.
Ce que j'ajouterais peut-être pour M. Perez, c'est qu'on a un mandat à la dernière date, il nous parlait, bon, d'être libéré, que si on n'avait pas de solution, là, d'un dispositif de jugement, peu importe, il parlait de sa libération. Nous, c'est... Si monsieur se plaint des conditions de détention ou qu'il y a quelque chose, ça va être plus dans son dossier criminel, évidemment, qu'il peut avoir des réparations, ou on a parlé d'action collective ou des dommages, évidemment, ça ne sera pas encore dans la base corpus. Mais non, c'est tout.
Mais pour ce qui est...
Pour l'informer ou pour son détention.
Oui, alors monsieur Perez revient devant le tribunal pour sa peine. Alors c'est sûr qu'il pourrait invoquer ses conditions de détention pour demander... non seulement un crédit d'1,5 pour les mois passés en détention, mais un crédit supplémentaire pour prendre en considération les manquements qui ont été faits et le fait qu'il n'y a pas été 10 heures hors cellule et à la cour extérieure. Naturellement, ça serait quelque chose qu'il pourrait faire. Il pourrait faire cette requête-là au juge qui va le sentencer, comme en étant une réparation comment on appelle ça, donc? Aux accros à sa liberté résiduelle. Parce que c'est ça. Mais ça, j'appelle ça un accro quand il s'agit des aires communes, mais j'appelle ça une violation quand il s'agit de la cour extérieure. Alors, M. Perez,
je vais vous... The last part would have been nice to hear in English, because those terms that I'll have to use at the outside courts, that's where my French, it stops. But I am happy with kind of everyone seems to be understanding that there is, in fact, a problem, and you know, there is, you know, I'm not just making it up, and I'm glad that we came to the conclusion that we can rectify it, you know, and I wish everybody, you know, like, I made up, there's a lot of nice people that I met there, and there's a lot of people suffering, older men, they're in canes, they're getting 2 meals a day, I'm losing my hair, and just to show you my stomach, what happened to me, I never had this before. I've lost weight. I've got buttons all over my stomach. I'm barely hanging on. I feel like I'm in a prison within a prison. You know what I mean? And at the same time that I had read in Turbide Labbé versus, as you guys talked about, I had read that there's a Nelson Mandela rule which governs the principles of confinement, which has to be last resource, and plus their mental health must be assessed. You know, we don't get any of that stuff at all, and it would be good to see primarily that there's 3 nutritional meals per day and not just 2. Cereals and milk in the morning doesn't qualify as a nutritious meal. And
Mr. Perez,
yes.
don't talk to me about the food. The food was explained the last time. I think
Maître
Rémy and Mr. Gagnon took steps to try to help you, and they did succeed because you now receive...
They didn't succeed.
Yes, you
have... They didn't succeed. They rejected me for supplements. The time when I went to see the medicine, it wasn't to go get any tests or what else. It was purely to reject me for extra food and supplements. So it actually... And the kosher food, it made things worse because I eat less.
Mr. Perez, I have
less food now, so I'm in a worse...
Mr. Perez, I understand, but you said in court that you wanted to change from vegetarian to kosher. And they did take steps for you to receive the kosher one. I understand it's not the proper solution because it's worse. But they did take steps.
It's 3 months old food. Yes. The food is 3 months. I have the certificate that says this was made in 3 months ago. I have it all here.
I'm just telling you that the way they handled this situation, even if it was not in the habeas corpus, they took steps to have you see the nurse, to have your meal changed to kosher. So this part, it's something else. Now we're at the habeas corpus, and we are in your rights to have your residual liberty respected. That's what I have to look at, and I have to see. What are you telling me? Because you heard what Maître Rémy said, you heard what I told her, and we come, both of us come to the conclusion that there's something to be done, but how? Because it has to be a way that could be respected, so it will change.
They're not willing to. The guards, they says they're not willing to come out. They're in Gret, they're on strike right now. There's a big strike here. So they're just not willing to work. Nobody's willing to work. So, I mean, it's nothing that we can do unless you're willing to pay them double what they are currently getting. I don't know. It's not my department here. But they're clearly contesting their pay, and they just don't want to. Even the sergeant doesn't want to. And they so much don't want to that they don't even answer memos, they don't answer complaints, which the law says you must. It says the time limit in this chapter may extend with the inmate's consent. If a complaint is related to an emergency in which the inmate's life is endangered, the person dealing with the complaint must reply as soon as possible. And that's 66. Number 63 says that within 2 working days, must reply in writing to the inmate unless the correctional service has resolved the complaint. There's none of that. There's a lack of voluntary will. It's like willful negligence. I'm not a professional, but it seems to me that it's just willful. You know what I mean? There's no motivation for them, and I don't know what's the reality of this. What's this going to be? What's the reality? Is this going to create a jurisprudent that's going to cause a lot of trouble? I'm not looking to cause a lot of trouble. I'm just looking to have the respect that us humans deserve. I mean, the SPCA, it brings their animals out twice a day. I mean, we get less than the SPCA. I don't know what to suggest, but truthfully, I should be going home. It's just not human. They have no consideration for the people's mental health, even though there's a Nelson Mandela rule that I had read that they it's a last resort, and they must be assessed by healthcare professionals to see how people are doing, and they don't do that. So we're in trouble there. And then if I continued reading in the Turbine Labé about Bill C-83, I didn't know that solitary confinement was abolished. It seems to be abolished. And
Mr. Perez,
they go on to say about...
Mr. Perez, I know that decision, and you're not in confinement. So this is not what we're dealing with. And I'm not going to put you back in liberty, because you're receiving your sentence in a week. It's not something you're waiting forever. It's your file is finishing next week.
But I would suggest that in this case, then you delay your judgment till after the sentencing, then, because you know what I mean. This is going to be very prejudicial to me. It's not right, and You know, it's continuous. There's no way else to look at it. It's a problem against my liberty and life.
Yes, but I won't.
The charter.
Mr. Perez, I won't interfere in your sentence. Now I'm going to render my decision today. And I'm listening to you because you heard Maître Rigny and you heard me. What I said to Maître Rigny is that I understand that the 10 hours outside of your cell is important, but for a reason out of their control, because they don't have enough agent to work, and they have incidents all over the place, and with the, how do you call it?
We never see drones, it's always just hearsay.
No, but I'm telling you, they have big problems with the, how do you call it, the things that flies,
the drones.
Drones.
As he said, there was a drone on their building. He went to go take, it takes 10 minutes to go pick up a drone that's on the top of a building. But they use this excuse, like, at liberty to just restrict our liberty and just deprive us from it when somebody can just go. They have 500 agents. And if you calculate, that's like three per, they have enough agents here. It's not like there's missing agents for 1,200 inmates that there are, as he testified.
Yes.
The agents are there, nobody wants to work.
Mr. Perez, I think, obviously, from what they told me, they don't have enough agents because some of them are sick, some of them are on leave, and they try to deal with the agent they have the best they can. That, I was convinced by the testimony I received. What I'm not convinced is that they do whatever they can to have your exterior court respected, because it's clear it's minimum 1 hour. So 1 hour cannot, it cannot be under 1 hour, and it's not the case. And because you gave me a list of the hours that you had access outside, you gave me two lists. You gave me R1. R1 that you was the first document you gave me from April 1st until April 1st to August 19th. And then you gave me another document,
yeah.
R13. That gives
over
me
80 days.
That's what I'm telling
That's
you.
That's over 80 days that we didn't go outside so, in the first batch.
Mr. Perez, what I'm telling you is because of your two documents, R1 and R13, I can see that that problem is always there. It's not only for a period of time. It's not only because suddenly there's more drones. It's not because suddenly there's more people sick. It's because it's not a priority. That's what my reading is. It's not a priority. When something happens, they cut the exterior court. So
that they don't hire people full time.
No, that they
that's what he said. He said he doesn't.
No, they said they try to hire people full time, but they don't have the candidate. And when they have the candidate, part of them they leave. So even if they receive 8 people every month or whatever, 3 of them leave. So my decision, and I want to hear you on that, my decision seems to go in this direction. The violation of your right to have the hour outside is clear. For the rest, I don't see a violation in the circumstances. I think that the administration of the detention center, they do whatever they can to respect it, but they have all kinds of incidents that they can do it. Mr. Perez, I understand.
They only talked about 4 incidents.
No, but when they talk about knives being found and they have to go through and search everybody, the cell and the people, and that's a security matter. It's important. When they have a drone that drops something, I understand they have to close the courts, the exterior court, but they have other possibility to have you, after the time they close, to have you go outside. I'm convinced of that. So if you have something to tell me about the time in the common room, because that's something I'm not going to intervene.
Yes.
I'm going to intervene with the exterior court.
I mean, just the temps cellule, there's so many of them, 22 hours, 13 hours, 15, 17, 15 hours, 15, 17, 15, 16 hours, 22, 20, 20, 11, 25, 16, 30, 14, 15, 17, 20.
Mr. Perez,
it averages
the documents.
A lot.
I read the documents. I read the documents. I see what you're telling me, but you still have time outside your cell. And even when they closed everything to do the search on the 29th of August and the 30th of August, you had time outside of your cell. They took the...
So you think it's normal? 4 hours in 19 days, 4 hours and 15 minutes in 19 days, that's justifiable.
Are you talking about the exterior court or you're talking about time outside the cell?
Just the exterior court. We've had 4 hours and 15 minutes in 19 days.
Mr. Perez, I told you I agree with you on that point. I agree with you.
It's so continual. It's been since the beginning of time. It's been 9 months, 6 months, six, seven, 9 months.
I agree with you. On that, I agree with you. I'm telling you, do you have something else to tell me about the time outside your cell? Because there, I don't see that
The time outside my cell is well under 10 hours. It averages maybe 6 hours, maybe less.
Yes, but you have 10 hours often, and when you don't have 10 hours...
No. We have 10 hours not often here. En cellule, en aire commune, you can see it. Okay, so from the 21st to the 25th, it's 10 and a half hours, no problem. But then that's the end of it.
No,
you see the 26th of August.
I'm talking about September.
26th.
I'm talking about September. I don't really see.
Okay, September 1st. September 1st, 7 hours and 30 minutes F coming. September 2nd, 2 hours F coming. September 3rd, 3 hours and 15 minutes F coming. September 4th, 4 hours F coming. September 5th, there's the 10 hours, there's the only time. And then September 6th, 7 hours and 30 minutes F commune. 7th, you have the 10 hours. Number 8, 9 hours. Number 9, 7 hours. September 10th, 3 hours and 40 minutes. September 11th, 8 hours and 30 minutes F commune. September 12th, 9 hours and 45. So you see the 10 hours is there maybe like a few times. Less than 20%, like it's all right there. It's just as bad as the exterior courts. And given this,
I have to tell you that from September 5th, you have 10 hours and 30 minutes. September 6th, 7 hours and 30 minutes. September 7th, 10 hours. September 8, 9 hours. September 9, 7 hours. September 10, there was something there because only 3:40. And then 3 hours 30 and 9 hours 45.
That's three times, we'll say. We'll give it three times since September 1st. Three times in 12 days.
Mr. Perez, in the last period of time, it's okay. It's okay because they tried.
I know, I disagree.
They tried their best.
I disagree. No, I disagree.
Yeah, you can disagree, but I'm the one deciding. And I think that the center of detention showed me that it was legal to give you those hours because they could not do otherwise. And you know what?
I disagree.
I think it's more important. It's more important that you have your hour outside than to have an hour more in this air commune. If 1 hour has to be
deprivation.
No, yes, but it's written black on white that you should have 1 hour outside. The 10 hour is en moyenne. It says en moyenne, so it means if possible, yes. If it's not possible, no. But it has to be reasonable. It's obvious.
So that's 100 times in 150 days.
No, but that's not the habeas corpus.
Like if you look at the whole ensemble.
Yes, but the habeas
corpus. The whole ensemble was continuous.
Mr. Perez, I have to look at the situation now. And now, from what I see, they did do the effort to have you outside your cell as much as possible. What I don't see is the effort to have you outside in the exterior court. That's a big, big, big problem. And that's not en moyenne. The exterior court is minimum 1 hour. You don't even have that. You don't have 1 hour.
I mean, what could I possibly have as compensation? I mean, it's really bad. You have no idea how bad it is.
But sir, you have to make a motion to the judge that will render the sentence and tell him that you think that the fact that your condition in detention is that.
I'll have to do both. I'll have to appeal this. I mean, I don't really agree with the decision where you think it's not a lot. It's clearly that they're not interested in working when their money is not fulfilled. Whether they have the employees, they're just not interested in working. That's what they said. He was clear about it. Even himself, he said, it's not worth it for me to go. The gas costs more.
Sir,
in 150 days that I've served here, it's been terrible.
Sir.
Terrible.
Sir, that's what I said to the prosecutor, that they should freeze their time to give them the obligation to do overtime, to be there, so you could go outside. That's my main consideration. You should go outside. And you said it events affect our mental state of mind. And I agree with
you. It does.
I agree with you.
It does.
So I'm not saying they should not give you more time outside yourself. That's not what I'm saying. But the measure they took, I think, in the circumstance, are legal.
What does the bottom line look for?
I'm going to render my judgment. I was listening to you. Do you have something else to tell me?
For example, the judge, he renders something between 8 and 12 months. What's the reality for it? Am I going to be able to claim $1,000 a day of deprivation of liberty? Am I, you know what I mean? Is there a set amount? Do you accept un recours collectif? I mean, these are the things that I would want to know. There's other people who want to know as well that are suffering out there.
Mr. Perez, I'm on the habeas corpus. For the rest, you have to call a lawyer or call Jury Pop or call, there's even at the bar they give advice. So I'm not here to give advice. You have to look at your situation and decide what you're going to do. But in the habeas corpus, I heard your representation. I heard what you're saying.
And you accept it?
What?
You accept, so basically you accept the habeas, you're granting the habeas corpus?
Only part of it. But I'm granting it, yes, on part.
Is there a reason that for the only part of it?
I'm going to pronounce it, sir. That's my judgment. So I'm going to explain why I give that decision. Okay? So, Maitrini, I'm going to render only the conclusion of my judgment. Ça va être avec motif à suivre, because I think I should render my decision right now. So I'm going to ask you to help me to phrase the conclusion, because I want it to be applicable and I want it to be respected. So I will grant the application on one ground, the lack of access to the exterior court 1 hour a day. And that's in conformity with section 10 of the loi, le règlement d'application de la loi du système correctionnel du Québec, that was produced by Maître Rémy and her book as Onglet number 1. I will dismiss ground 2 concerning the average of 10 hours outside the cell of detained person, because I come to the conclusion. Second. That the authority have demonstrated that this privation, that's is legal. So I'm going to rephrase it correctly with l'arrêt Kellogg that will help me rephrase everything so everything will be properly said. So I will grant the application on ground 1, that's the lack of access to the exterior court, and I will order EDM. That's where I need your help, Maitrini. I was planning to say order EDM to have the adequate number of agents required to provide the detainee person 1 hour of exterior court each day, in conformity with section 10 of the law of the correctional system of Quebec.
How many agents is that?
Mr. Perez, when I render my decision, you don't interfere. You're just going to listen to it. Maître Rény, do you see something that should be changed or precise?
Monsieur Perez n'est pas tort pour le nombre adéquat. C'est pas, c'est, si on suit le tour des abeilles, si on suit un peu les enseignements de cette décision-là, il faudrait que ça soit plus encadré. Alors, ce que j'ai compris de ce que vous m'avez dit tantôt, c'est que ça devait être plus une priorité. Si on parlait de 3 repas par jour, je ne sais pas si on peut trouver une façon que le dispositif du jugement soit ça, que ce soit... Parce que c'est sûr qu'on n'aura pas le nombre adéquat de personnel pour faire ça.
Mais sauf que M. Gagnon m'a dit que ça prenait 3 personnes pour assurer de la sortie en cours.
So they won't have the personnel, I don't understand. I mean, I feel like I will have to appeal this for some reason.
De s'assurer, ordonner à l'EDN d'assurer de prioriser.
Attendez, je vais regarder ce qu'il m'a dit. Je pense qu'il a parlé de 3 agents minimum.
I mean, it's...
Je sais qu'il a parlé du nombre d'agents que ça prendrait en supplémentaire pour assurer, parce que quand il parlait de... comment les agents étaient distribués quand il y avait des fouilles et tout ça. Il a dit qu'il faut garder tant de nombre d'agents sur l'étage, puis on a besoin de tant d'agents pour permettre de sortir. Et je ne trouve pas le nombre d'agents qu'il avait mentionné, mais il me semble que c'est 3.
Vous l'avez tant de silence sur...
Oui.
De sauver de la baie et... ça avait fait le jeune administrage ensuite, puis c'était le juge Pompé qui avait. Je me rappelle quand j'étais là, on avait traité la question des délais raisonnables. Donc, le juge Pompé avait conclu que ça, c'était assez précis. De dire, par exemple, dans les délais raisonnables, il faudrait faire ça. Ce qui causait problème, selon la Cour d'appel, c'est trouver une alternative. Donc, je pense que si, pour respecter cette décision-là, il faudrait. Je ne sais pas si je me pencherais sur le nombre exact, 3 personnes, parce que avec Égard et M. Gagnon, je ne sais pas s'il a dit ça comme ça ou je ne sais pas trop. Là, je veux pas que mon client soit trop en outrage. Là, donc, ordonner à l'établissement de détention de... d'assurer un nombre adéquat de personnel. Pour que les sorties de cours extérieures soient priorisées. Quelque chose comme ça?
I feel like I'm losing part of my life in this decision simply because my sentence has not been given. If I would have it 8 to 12 months, as he says, I would have time done right now. You know what I mean? And I'd be able to go home. It's not right to make a decision in only 6 days for my sentencing.
That's what you're going to tell the court. The judge, next week, you will tell him, I've been detained that number of months. My legal rights for my liberté résiduelle were affected, and I'm asking the court to grant
legal.
me 1.5 days per day detained plus a certain amount of days as a reparation for my detention condition. That's something you can do, but I'm not your lawyer. I'm not going to tell you what to do. And here, what I'm doing is something about your habeas corpus, not about your sentence, not about your case. It's about your detention.
My liberty is still going to be, it's still going to be deprived. If the habeas corpus, though it be granted, my liberty is still in risk and peril. And over the next 2 weeks, it's going to be the same thing, and I'll have no recourse. So really,
Je l'ai trouvé, Maître Ligny. Il a dit que ça prend 3 agents pour chaque sortie. Alors, je pense que c'est. Je vais respecter la décision du juge Cournoyer et je vais préciser pour pas que ça soit ambigu. Alors, je vais donc. Et pouvez-vous le noter parce que ça, on peut. Je veux que ça soit clair quand même, là. Order ADM to have 3 agents as required to provide the detainee person 1 hour of exterior court each day. Fait qu'il faudrait que je marque 3 agents per... C'est des wings, ça? C'est quoi les secteurs?
Les secteurs.
Ça se dit comment en anglais? Per...
C'est
une wing?
Secteur.
C'est secteur.
Ça serait une aile, là.
Fait que ça serait plus B. Alors que là, on parle de différents B. Donc, ça serait des bisector?
Ouais.
OK. Alors... To have 3 agents per sector as required to provide the detainee person 1 hour of exterior court each day, a priority clearly stated in section 10 of the law of the correctional system of Quebec.
And the 1.5...
Mr. Perret, just a second, okay? Mm-hmm. Because I just want to write this properly so it will change, okay? Oui, maître.
Okay.
Est-ce que il y a, vous seriez ouverte à ce que je valide juste le nombre avec mon client? En fait, peut-être de vous écrire dès qu'on raccroche, là, je fais juste des démarches pour m'assurer que c'est ça le bon nombre, là, juste pour pas que...
Parce que
ça doit dépendre des établissements et tout ça. C'est juste ça. Là, on a visé EDM, je veux juste que ça soit correct. Là.
Mais là, je commande à EDM seulement. Là. Moi, mon ordre est à EDM.
Je sais. Mm-hmm. Okay.
Alors, moi, c'est avec les données que j'ai de EDM.
Oui.
Alors, c'est pour ça que je dis 3, parce que c'est ce qu'il m'a dit, moi. Écoutez, on était à 11h44-19 dans ce point-là, quand M. Gagnon a précisé ça.
Oui.
Mais peut-être, je ne sais pas si vous voulez le texter ou lui écrire un courriel pour valider ça.
Oui, je vais faire ça, mais oui.
Can I say something, Mrs. Le Juge?
Yes.
I was going to say that the 1.5, for all the suffering that I went through, I really don't think it's reasonable. I think that it's more appropriate at least 2 double time.
Mr. Perez,
that I've suffered.
That's something you have to plead to the judge on the 20th of September. I'm not here to render a sentence. I'm here for the habeas corpus. For what you're telling me right now, it's the judge that will render your sentence.
And I'll have to give him the file number so that he knows?
What? It has nothing to do with the habeas corpus. It has to do because I'm saying that they should change their way of their decision, because they don't put the priority in the right place for that hour outside. That's what I'm saying now.
Non, la juge, je l'ai texté, là. Je vais attendre.
So, for example, in 3 weeks, when I continue noting the schedules, and it's probably going to be the same thing, is my recourse still in a habeas corpus?
No, no, what you're going to give the judge is probably your first R1. R1 that you gave me, you're going to give it to the judge, and you're going to give him R13. And you can't even talk about the food at that point. You can talk about all your condition in the detention center. And then you're representing yourself. So you're going to say that to the judge as your own lawyer.
Okay. And then can I bring a civil action against the Bordeaux for the totality of the deprivation?
That's something I cannot answer, sir. I'm not here for that. I'm here only for the habeas corpus. I'm not a lawyer for you to consult. I'm here to render a decision. So you have to call a lawyer or try to get opinions from somebody that can guide you through that. Est-ce que
M. Gagnon
a entendu,
Patrini? En fait, il vient de répondre. Est-ce que vous me permettez de quitter 2 minutes pour que j'appelle?
Oui, mais là, est-ce que vous avez bien noté ce que j'ai dit? Je vais vous le répéter lentement pour que ça soit clair.
Oui.
Order EDM to have 3 agents per sector as required to provide the detainee person 1 hour of exterior court each day, a priority clearly stated in section 10 of the règlement d'application de la loi sur le système correctionnel du Québec.
Oui. OK.
Je vais y aller. OK, on va vous attendre.
And about the aire commune, is there a specific thing that can be included, like no less than 10 hours a day, no less than 5? Is there a precision that can be made? Because it's really ambiguous. People are not happy with less than 10 hours. It's even they themselves, Mr. Gagnon said that we give them, which was false.
No,
not only the punishment that I received from him for changing my cells, which I have the tags of my co-cellmates' food, which shows that we're still both together. So, and not only that, the threats of being transferred from the guards, that once I lose this case, my reputation is going to be bad, and blah blah blah. The intimidation factor is there. That the guard even told me that there is a message inside the system that says that I cause trouble, but I don't cause trouble. I just exercise my right. But for the employees, I'm a trouble causer, and this is going to probably hurt me when I go back.
Sir, you're not losing your demand. You're winning on one of your points.
There should be a minimum of 10 hours in the R commune. I mean, if you're just going to talk about, especially if you let us back in the R commune after an emergency, that there is no more emergency. It should be specified that we should have a certain amount that the court can agree to that we should have.
Sir,
because it is a deprivation of liberty.
You can use the affidavit that Mr. Gagnon gave in this file. You have the statement of Mr. Gagnon. You can use it because at paragraph 6 he's saying that you should have the benefit of an average of 10 hours. So it's written...
But I mean the law books itself, so that the system établissement should reflect upon that.
No, the courts won't decide what the detention center will decide. They decide for their own grounds and security, and we should not interfere judges. It says everywhere that I should respect the decision. Only if it's not legal, then I intervene. So this statement of Mr. Gagnon, you can use next week. You can bring it with you.
Okay.
And you have also the book of the lawyer, the legislation at the first. You can use that too. But I'm not the one to tell you. You decide what you do and you decide what you plead, but it's not in the habeas corpus that you do that.
And now, because of the complaints for the jail, I'm not able to send a motion to the judge from this defense, because I'm considered to have caused trouble to the thing. So what am I supposed to do? Now I cannot. I'm being deprived of my judicial consultation and ability to do any judicial consultation that has to do with, you know, enforcing my rights, which are protected by the Charter. It says we could have judicial rights, even if it's a complaint against the prison, but the prison is prejudicing me about this. And will you give me the copy of the decision that you make that I could also present to the judge?
It won't be available, only my conclusion on the procès-verbal, so the procès-verbal can be sent to you.
I would need a copy of all that, and why not the conclusion?
No, you will have the conclusion. The conclusion will be written down in the procès-verbal, and the clerk can send it to you.
I would appreciate that, if that's possible, because I'll need it. And what about for the prevention of faxing the judge because of this? Do I have any recourse?
Mr. Perez, I won't answer those questions because I'm not there. I'm not here on appeal. I'm not a lawyer to give you advice. You have to consult a lawyer or somebody that can give you the best way to defend yourself and to present your arguments. I told you what to do in this file, like what point I was going to consider, what I was considering, so you know that where I was going, but I cannot go further than that because I'm only in this habeas corpus. That's it.
And you didn't find that there was only a few times that we had 10 hours, that it was, even you said it's affreux, you said the word affreux in your thing, that, you know what I mean, I don't feel it being manifested in your judgment, that it was affreux.
No, sir, I told you that the exterior court is affreux, because you don't have access, you have access very few times in a week, so I think it's affreux. For the time outside your cell, I hope you will have more hours, and it seems to increase with the last days in September. So that's something good, because they seem to correct things so you can have more time outside.
In September, there's no, 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 no. There's one yes, one, two, three. There's four yeses in 13 days. I don't see how you see that it increased.
Mr. Perez, that's where I say that I grant your habeas corpus on that ground. The exterior court, I say you're right. You don't have to plead. I said you were right. For the exterior court, doesn't make any sense.
So there was only two grounds to my habeas corpus. There was the ground number two, which is the 10 hours a day. That one you didn't grant.
No. The one I granted is the 1 day, 1 hour a day outside.
Okay. So it's only composed of two grounds, this habeas corpus.
Yes, because the food is not included, and the asthma medication also. It's not in the habeas corpus.
And you thought it was justifiable to grant, to dismiss the 10 hours a day when it's clearly signed by 27 people that the average is less, is much less than 10 for all around.
Mr. Perez, I'm not explaining my judgment. I'm going to send you the conclusion by the clerk, and I will send you a judgment with more detail, like probably in 2 weeks or more. I don't know. But you will receive a written judgment with all the reasoning.
I pray that you could look over this more than just today. I pray hard because I've suffered in 6 months. And I should be home right now.
Madame la juge?
Oui.
Alors, c'est bien pour ces deux agents, juste pour l'attention de tous, ces deux agents sont à l'inspection, puis il y en a un dans la guérite pour la circulation, pour prendre les noms de ceux qui sortent.
Bon,
donc, c'est total trois agents.
C'est ça.
Donc, comment vous l'avez, comment l'ordonnance serait formulée, ça irait. Par contre, il a soumis quelque chose. En fait, c'est que là, si on assure que trois personnes pour assurer les cours, puis qu'une livraison de drones, par exemple, ça ne sera pas sécuritaire s'il y a une heure qui rentre.
Oui, mais je donne pas d'heure. Je veux dire, ils peuvent le faire entre 8 heures et la tombée du jour. Là. Moi, je ne dis pas que ça doit être fait le matin, ça doit être fait l'après-midi. C'est dans la journée. Alors.
Ouais.
Et là, n'oubliez pas qu'il me dit que dans un mois, la cour protégée va exister. Ce qui va faire qu'ils vont pouvoir indépendamment sortir les gens qui ont des drones ou pas.
Mm-hmm.
Alors, je prends ça en considération.
Donc, ouais, la vérification de trois jours, il n'est pas du tout trois jours, pardon, de trois agents est faite. Il me l'a confirmé. Voilà. Il y a quelque chose qui m'a soumis aussi que je peux peut-être vous.
Oui.
Vous soulevez, c'est que lorsqu'il y a des fouilles, il a expliqué en fait que l'horaire était aléatoire. Puis il me dit qu'on pourrait diviser le temps de sortie entre secteurs plutôt que suivre l'horaire qui était prévu. Donc ça veut dire que chaque secteur, ça c'est une autre solution qu'on pourrait mettre, mais là ça se peut que si on fait juste ça par exemple versus ce que vous avez proposé, c'est que là le temps serait divisé. Donc, si, par exemple, ça passe 5 heures pour faire la fouille puis gérer tous les enjeux sécuritaires, bien, ça se peut qu'il y ait, même si tout le monde a exactement le même temps, bien, ils n'ont peut-être pas tous une heure.
Non. Mais là,
donc, c'est peut-être mieux que vous.
Non, oui. Moi, j'aime mieux qu'ils prévoient trois agents. Il va falloir qu'ils prévoient le temps supplémentaire. Ils savent, ça prend trois agents pour les sorties, puis que ça doit être une heure par jour. Alors, ils prendront les mesures nécessaires. S'ils ont besoin de rappeler des retraités, comme pendant la COVID, ils le feront. Puis là, ils vont avoir des cohortes qui vont arriver de Laval. Ils vont avoir une cour protégée qui va faire en sorte qu'ils ne vont être pas bloqués complètement chaque fois qu'il y a une fouille quelconque ou qu'il y a une bombe qui passe. Alors, Monsieur le greffier, je vais reprononcer mes conclusions pour que ça soit clair. Alors, conclusion, wherefore the court grants the application on ground one, the lack of access to the exterior court 1 hour a day. Dismiss ground two concerning the average of 10 hours outside the cell of detained person. Est-ce que ça convient? Là, je ne vais pas trop vite.
Non, ça va.
Ça va. Virgule. EDM. Ça, c'est les initiales. Là. Having shown that deprivation of liberty was lawful. Le dernier. Est-ce que ça va pour le texte? Order EDM to have 3 agents per sector as required to provide the detainee person 1 hour of exterior court each day, virgule, a priority clearly stated in section 10 of, là je vais dire comme il faut, là c'est le titre du règlement,
Règlement
d'application de la loi sur le système correctionnel du Québec. Without cost. Alors, cette conclusion, M. Le greffier, sera envoyée à Maître Rémy, qui fera en sorte de le distribuer aux personnes requises, dont à l'établissement EDM et à M. Pérez. Ça va? Parce que je veux qu'il ait le procès-verbal pour qu'il puisse, s'il a besoin de s'en servir la semaine prochaine, qu'il puisse avoir à sa disponibilité. So, M. Pérez, I really hope that my decision will change the way you're detained actually, and that your time outside your cell and outside in the exterior court will increase and be of 10 hours for the exterior of your cell and 1 hour for the exterior time. But the one that the règlement provides is for the exterior court, and I think they're trying their best to have you out of your cell for 10 hours, and I hope it will increase with the days that go by. Alors, je veux remercier tout le monde pour votre patience. On n'a pas eu de pause cet après-midi. J'en suis désolée, mais je pense qu'on devait finir ce dossier aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait autre chose que je devais prononcer?
It's just to confirm, is this is appealable, or do I have to mention it, or do I just have to...
No, you do whatever you have to do. It's a decision from the Superior Court on habeas corpus. You saw that... it can go on appeal. There's a decision of the Juge Cournoyer that Maître Rémy mentioned on la bid sur bid that was in appeal.
Can you give me that case number, Cournoyer?
I don't know, Maître Rémy, do you have the number? The...
L'adresse?
Oui.
Yes.
For Monsieur. 2021, QCCA.
QCCA 1687.
It's a case.
That's pour
Noyer. C'est Turbide. Non, the name is Turbide Labbé.
Turbide Labbé contre MSP.
Contre MSP.
So, okay.
And the decision MSP. Is written by Juge Cournoyer. Guy Cournoyer.
Okay, thank you for your time. Thank you.
Good luck, Mr. Perez. So, I adjourn this case. Merci beaucoup à tout le monde.
Merci.
Merci, Maître Rémy.